cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 17 novembre 1994.
Nous avons vu en philosophie première, le 3 novembre, que la forme est liée à la matière, lorsqu'elle touchait à sa perfection, échappait au devenir. La forme comme telle, dans sa détermination qualitative, est au-delà du devenir. Autrement, c'est la disposition. Pouvez-vous préciser cette affirmation ? La forme échappe-t-elle au devenir de la matière ? Pendant la réalisation du chef-d'œuvre dans l'activité artistique, où la forme échappe-t-elle au devenir de la matière ? Après la réalisation, même s'il s'agit d'une matière putréfiable ou pouvant changer d'état, corruptible, par exemple un sculpteur sur la glace. Oui, la forme eidos. L'eidos platonicienne, c'est la forme dans l'intelligence. C'est la forme pour Platon en soi. C'est la forme informant la matière. Donc c'est la forme. Oui. Il y a deux regards. La forme qui regarde l'intelligence, donc l'esprit, et la forme qui regarde la matière. C'est très curieux. Vous voyez, la forme qui descend du ciel par l'esprit, ça c'est Platon. Alors, eidos est la forme qui émerge de la matière, Morphée. Et elle est entre les deux. C'est évident que, au point de vue de la découverte, vous avez des deux côtés. Deux aspects de la forme. La forme liée à la matière implique le devenir. Elle est liée au devenir. Et la forme venant du ciel, dans l'esprit, eidos, alors elle est spirituelle. Et Aristote emploie les deux mots. Hein. C'est ça qui est très intéressant. Eidos, la forme idéale, et Morphée, la forme physique. C'est pour ça qu'il s'agit de comprendre la forme parfaitement forme, victorieuse de la matière. Bon, dépasse la matière. Alors si vous la prenez dans sa réalisation artistique, elle est toujours dépendante de la matière. matière vers le ciel qu'elle devient incorruptible. C'est très curieux, ça. Hein, vous avez les deux aspects. C'est en savoir que l'œuvre d'art est antidestin, parce que au-delà du devenir, au-delà de la corruptibilité, mais en même temps, elle reste dépendante de la matière, c'est bien évident. L'œuvre d'art, la matière peut se corrompre. Et quand la matière se corrompt, la forme se corrompt, sauf celle qui est dans la pensée de l'artiste. Celle qui est dans la pensée de l'artiste, elle est dans le ciel, incorruptible. Mais quand elle est dans l'œuvre, elle tombe dans le monde physique. Et elle dépend du monde physique. Et elle dépend du devenir physique. Et c'est très curieux, cette espèce de forme qui tient les deux, le devenir et au-delà du devenir. Et c'est très vrai qu'il faut distinguer les deux. Oui. Donc, vous pouvez dire que Morphée dépend du devenir, Eidos est au-delà du devenir. Et les deux se traduisent en français forme. C'est là où on voit que c'est pas commun de passer d'une langue à l'autre. Et il y a beaucoup de mots comme ça, hein, qui en grec impliquent deux mots. Acte. En grec implique deux mots. Entelekeia, energeia, ce qu'on verra. Et en latin, ça se traduit actus. Et en français, acte. Le latin a de fait.
L'immanence fait comme une victoire.
l'immanence a une peine énorme de découvrir la transcendance de la fin et donc de l'acte. Au point de vue vie, ma vie substantielle est une vie qui demeure immanente à la matière. Et cette réalité, je l'utilise. Mais lorsque je regarde l'homme, est-ce que l'homme, je peux le ramener uniquement à un instrument? Ou est-ce que l'homme, étant donné que j'ai vu que l'homme avait comme finalité l'amour d'amitié, et que l'amour d'amitié est un au-delà du devenir, je touche quelqu'un que j'aime. Et ce quelqu'un que j'aime, en tant que je l'aime, je ne l'utilise pas. Je m'arrête à lui. Dès que j'utilise mon ami, je sais très bien que je peux l'utiliser. Mais ce n'est pas le propre de l'amour. Uniquement son amour. sans me servir de lui. Mais on pourra dire à ce moment-là, attention, tu peux te servir de moi, tu sais. Comme ça, tu verras que je t'aime vraiment. C'est par le service que je vois que l'amour est réel et qu'il n'est pas imaginatif. Un amour purement imaginatif se révolte devant le service. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'épreuve du réalisme de l'amour. Un amour romantique n'aime pas le service. C'est au clair de lune. Et je ne veux pas le service. Tu te sers de moi. Donc, je ne suis pas vraiment ton ami. Tandis que si j'aime vraiment... Ah, tu ne te sers jamais de moi, tu pourrais servir de moi. On est triste que l'ami ne se sert pas. Ça prouve que tu n'as pas confiance. Tandis que, voyez, je crois que c'est très très important de saisir ça. Vous saisissez Péras, Eidos, Telos. Comme vous avez Eidos et Morphée. Ceci, c'est pour vous aider à comprendre. Une même réalité peut être considérée de deux points de vue différents. Une même réalité. Et l'analyse philosophique va permettre de distinguer les deux. Tant que je n'ai pas fait la distinction parfaite entre être et devenir, Télos me conduit à l'être en acte. Mais ce que je veux, c'est que vous compreniez le problème. Parce que si vous ne comprenez pas le problème, ça vous sert à rien, ça restera dans les nuages. Et le problème, il est dans l'ordre de l'amitié. Dans l'ordre de l'amitié, vous ayez tout le temps le point de vue de l'être et du devenir. Vous conquérez le cœur de votre ami. Mais la conquête du cœur de votre ami, c'est pour être avec lui. C'est pour demeurer avec lui. Si vous conquérez le cœur de l'ami en disant « Ah, je sais pas ce que je vais en faire. » Vous n'avez rien compris à l'amour d'amitié. Vous n'avez pas compris ce que c'était que l'ami. Puisque vous avez conquis le cœur de l'ami pour être avec lui, pour demeurer avec lui. C'est ça l'amour. Demeurer. Donc au-delà de la conquête qui est dans le devenir, il y a demeurer. C'est pour ça que dans l'évangile de Jean, on a toujours le verbe demeurer. Dresser sa tente. Demeurer là, au-delà de toute conquête. Donc, l'expérience de l'amour d'amitié vous montre qu'il y a un au-delà du devenir. Et cet au-delà du devenir est commandé par le bien. Le bien qui m'attire, le bien d'une personne. Cette personne bonne, elle m'attire. Elle est capable de capter mon cœur pour que je demeure en elle. Et que cette personne demeure en moi. Parce que je m'aperçois que pour demeurer dans le cœur de mon ami, il faut que moi-même je demeure en lui. Alors là, c'est tout problème de l'amour d'amitié, cette réciprocité qui ne détermine pas mon amour, mais qui est une condition sine qua non pour que mon amour existe en plénitude, pour que je puisse vraiment demeurer en lui. Il faut qu'il demeure en moi. Réciprocité. Et c'est cette réciprocité, condition sine qua non du dépassement du devenir. Alors qu'est-ce que c'est que ce dépassement dans l'amour d'amitié? Qu'est-ce que ça correspond au point de vue de la réalité, c'est-à-dire au point de vue de l'être? Je passe du bien au devenir. Mais voyez, c'est très important de comprendre que l'interrogation, qu'est-ce que c'est que la perfection de l'être? Vous ne pouvez la saisir qu'en faisant appel au bien. Votre expérience de en vue de quoi l'être passe par le bien. Si vous n'aviez aucune expérience du bien, votre interrogation en vue de quoi l'être n'aurait pas de sens. Et l'être. Après une course, c'est une autre course. Après, c'est une autre course. Et si on n'est pas dans l'agitation, on n'existe pas. On n'existe que dans l'agitation. On n'a pas découvert ce que c'est que l'être. On n'a pas découvert ce que c'est que le bien. On n'a pas découvert ce que c'est que la contemplation. Vous voyez, comme tout ça se tient, et se tient d'une façon très très forte à l'interrogation, quel est ce qui finalise l'être? Je ne peux répondre qu'en ayant l'expérience de la finalité de l'être. Où trouver l'expérience de la finalité de l'être? L'amour d'amitié, la contemplation. C'est l'amour d'amitié et la contemplation qui me donne cette expérience d'un dépassement du devenir d'une manière absolue. L'ami est au-delà de tout devenir et l'ami réclame que je le contemple. Et je m'aperçois que lorsqu'il s'agit d'un amour, d'une amitié à l'égard d'un autre être humain, cette contemplation est limitée. Et c'est pour ça que je serai obligé de dépasser cet ami pour découvrir l'autre absolu qui, lui, ne peut pas décevoir ma contemplation. L'ami va toujours décevoir ma contemplation. Ah, décevoir, vous comprenez dans quel sens? Je ne peux pas reprocher à mon ami de me décevoir. Au contraire, c'est un très grand service qu'il me donne. Parce qu'il m'oblige de le dépasser. Il m'oblige de me poser la question. Qu'est-ce que c'est que la finalité de l'être ? revient à regarder Morphée Péras. Et il faut arriver à distinguer Morphée d'Eidos, Eidos de Morphée, Délos de Péras, pour que l'interrogation « Qu'est-ce que c'est que la finalité de l'être ?» prenne son sens. Et à ce moment, c'est intéressant de voir tous les obstacles qui arrêtent le point de vue de la finalité au niveau de l'être. Tous les obstacles, c'est l'immanence de la matière, c'est l'immanence de la vie, c'est l'immanence du bien. Le bien, mais oui, il a été saisi dans l'amour d'amitié. Le bien, il existe dans l'œuvre. L'œuvre est le bien d'artiste, comme artiste. Et quand l'artiste termine son œuvre, il s'arrête. Et on lui dit surtout dire touchez plus. C'est votre bien, c'est votre chef-d'œuvre. Tant que c'est pas le chef-d'œuvre, vous retouchez, retouchez, vous venez, mais c'est votre chef-d'œuvre. Vous n'arriverez pas à quelque chose de mieux que ça. Arrêtez-vous. Parce que l'artiste ne sera jamais content, puisque c'est un résultat. Donc ce ne sera jamais une fin pour lui. Délos, ce sera Péras, en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, j'ai toujours cette expérience. C'est fini, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais aller plus loin. Un véritable artiste n'est jamais heureux de son œuvre. Et c'est là aussi, c'est l'artiste. Un artisan est heureux de son œuvre. Et il la vend. Parce que la chose la meilleure qu'on peut faire vis-à-vis d'une œuvre, résultat, c'est de la vendre. Et ça coûte très cher. Il est heureux de dire, voyez, ce tableau, je l'ai vendu tant. C'est terrible, parce que vous mettez l'œuvre relative à l'économie. C'est la fin de l'artiste. Tandis qu'un artiste ne vend pas son œuvre, il est toujours malheureux, son œuvre. C'est toujours un enfant malheureux, l'œuvre, pour son père. Parce qu'il n'est jamais adéquat à l'eidos. Et c'est vrai, l'eidos qu'il porte en lui est toujours plus. L'eidos s'est matérialisé dans la morphée. Il y a quelque chose qui ne va plus. Donc il veut la reprendre, il veut la reprendre indéfiniment. Mais ses amis qui savent très bien que ce qu'il a fait est extraordinaire veulent le reprendre pour qu'il ne la retouche pas. C'est très curieux ces choses-là, mais ça c'est très important. C'est toute la signification du péros, de la limite du terme et de la fin. Alors, si on ne saisit pas ça, on ne peut pas saisir comment l'être, selon ma manière de le connaître, l'être mais comme naturel, dans mon je suis, là, l'être mais comme naturel, et dans mon je suis, il y a mon corps, il y a mon conditionnement, et mon conditionnement limite. L'imaginaire. Alors je me pose la question, au serait pas mon bien. Alors du côté du bien, c'est l'être en tant qu'il est capable de m'attirer. Mais cet être en tant qu'il est capable de m'attirer implique la perfection. Quelque chose qui est au-delà de moi. Implique d'être bon d'une manière parfaite. En lui-même. Autrement, il ne pourrait pas m'attirer. Et s'il est bon en lui-même, capable de m'attirer, je suis en présence du bien. Le bien, c'est ce qui m'attire. Alors je vois tout de suite qu'il y a deux choses dans le bien. Il y a le bien qui m'attire. Et pour m'attirer, il faut que ce bien existe. Et qu'il ait quelque chose de plus que moi. Qu'il me transcende. Et il y a ma réponse à ce bien. Il y a mon amour. Et je suis en lien avec mon ami par l'amour. Je crois que tout ça, on peut le comprendre. Et on peut alors, à ce moment-là, comprendre que quand je me pose la question, qu'est-ce qui est la fin de l'être ? En vue de quoi l'être est ? Je vois tout de suite que c'est le bien qui, de fait, est ce qui m'attire, est ce qui me permet le dépassement. D'autres expressions.